Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi la revue de presse. La rubrique suivante, comme d'habitude, nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui et ensuite la mise au point. La rubrique suivante est magazine culturel et puis l'Indonésie en couleur qui sera continuée avec des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi La Revue de Presse.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Corée du Sud développent l'avion à réaction KFX et IFX. Rencontre le président, les ulémas de Kalimantan expriment les conditions des musulmans. Pour internationaliser le Geopark Caldera, le groupe de musique de l'Espagne fait le concert en plein air. Le Japon souhaite l'intensification de partenariats stratégiques indo-japonais. L'IPI encourage la prévention de l'utilisation de produits chimiques dangereux. Charami nous présente maintenant le journal complet. L'Indonésie et la Corée du Sud coopèrent pour développer des avions à réaction moderne KFX et IFX. Les avions modernes de la génération 4,5 soutiendront la performance du système d'armement principal des militaires indonésiens à l'avenir. Selon le plan, KFX et IFX seront lancés en 2021 pour obtenir la certification de la planification de développement. Le prototype pourra être utilisé en 2026 pour voler et manœuvrer bien. Cependant, au moins, les avions combattants seront exploités en 2030. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil de la recherche et du développement du ministère indonésien de la Défense, Anne Kusmayati, lors de la conférence de presse au ministère de la Défense à Jakarta. Anne a également déclaré que la coopération était très stratégique pour améliorer l'indépendance du système d'armement principal de l'armée indonésienne à l'avenir. Certainement, le programme de développement a une cible stratégique. L'Indonésie répondra à la planification stratégique des avions à réaction de la force aérienne indonésienne en conformément aux besoins opérationnels nécessaires en 2025-2040. Ensuite, elle améliorera l'indépendance du système d'armement principal des avions à réaction supérieure. L'Indonésie ne sera pas un acheteur, mais sera un vendeur à l'avenir. Il stimulera également la performance de l'Indonésie pour produire des avions à réaction et augmenter l'effet dissuasif. Anne Kusmayati a déclaré en ce qui concerne la coopération entre l'Indonésie et la Corée du Sud, l'Indonésie a envoyé 41 ingénieurs de PT Dirgantara Indonesia à l'industrie aérospatiale coréenne KAI dans la ville de Sasion pour obtenir l'orientation du système et du standard de la procédure opératoire. Le président indonésien Joko Widodo a reçu la visite des ulémas de l'Ouest de Kalimantan jeudi au Palais d'État Jakarta. Au cours de la réunion, le président du Conseil indonésien des ulémas, ou MUI, de l'Ouest de Kalimantan, M. Basri Hara, a déclaré que la réunion était une activité continuelle après que le président Joko Widodo fasse une visite de travail dans la province de Kalimantan Ouest il y a quelque temps. En outre, les ulémas de l'ouest de Kalimantan a transmis aussi la condition des musulmans à Kalimantan Ouest, qui a une population de 57% du nombre total des habitants là-bas. Les musulmans dans le Kalimantan occidental a un certain nombre de pondok pesantren ou pensionnats qui accueillent de nombreux étudiants. Selon lui, cela nécessite l'attention du gouvernement, principalement lié à l'augmentation du nombre des installations existantes afin de soutenir le processus éducatif. Un autre Basri a également révélé que la réunion des ulémas de Kalimantan Ouest avec le président Joko Widodo démontrait une synergie entre les ulémas et le gouvernement. Cela est nécessaire pour établir la République unitaire d'Indonésie sans la scission. En principe, MUI veut qu'il y ait toujours la synergie entre le gouvernement et les ulémas, une bonne coopération qui est mutuellement bénéfique. Parce que quand ces deux groupes entre les ulémas et le gouvernement ne sont pas clairs, ce sera un problème pour notre pays. Le groupe de Tanfis NU de Kalimantan Occidental, Hildi Hamid, a déclaré que les conditions de l'harmonie religieuse dans le Kalimantan occidental est très favorable. Les ulémas de l'ouest de Kalimantan ont la mission de continuer à surveiller le mouvement des musulmans de Kalimantan occidental afin d'éviter les efforts de radicalisation qui se produisent ces derniers temps. Il a également révélé des plans pour construire les logements modestes dans une de l'école islamique au pondok pesantren à Kalimantan occidental. Ceci est une forme de préoccupation directe du président aux musulmans à Kalimantan occidental. Le Geopark Caldera de Toba sera l'un des lieux de l'organisation du concert du groupe musical de l'Espagne, Orquesta de Camara de Sierra ou OCAS, mardi 1er août 2017 dans le projet d'intégration de la diversité culturelle, sociale et éducation à travers la musique, intitulé Vinculos. Ce groupe d'orchestre fait une série d'activités au lac Toba du 27 juillet au 2 août 2017. Le directeur adjoint des affaires étrangères de la diplomatie culturelle étrangère de la Direction générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, M. Ahmad Mahendra, a déclaré qu'on a choisi le Géopark Caldera de Toba comme l'un des lieux de concert de Vinculos parce que ce géopark sera soumis en tant que le réseau du parc global à l'UNESCO. Mahendra a dit jeudi soir, le 27 août 2017, dans la ville de Balige, la régence de Tobasa, le nord de Sumatra, la tenue de concert au Géopark Caldera de Toba pourrait introduire ce Géopark Caldera et augmenter le nombre de visites touristiques au lac Toba qui a été fixé par le gouvernement en tant que 10 destinations touristiques prioritaires. Les meilleures pratiques pour introduire sans avoir à faire une campagne à grand échelle, mais cette façon va créer automatiquement un virage partout. Mettons rationaliser le budget d'une manière plus précise, ainsi de suite, mais les résultats peuvent être maximisés. Ahmad Mahendra a déclaré que le concert aura lieu dans la plus haute vallée du Géopark Caldera. Les musiciens espagnols et indonésiens créeront l'écriture Vinculos et sera enregistré sur le vidéo par les drones. Auparavant, les vidéos de projets de Vinculos dans 12 pays sont devenus virales sur YouTube et les médias sociaux. Dans ce projet de Vinculos, les musiciens espagnols collaboreront avec des musiciens locaux tels que Irwan Shaharahab, le groupe de musique Mantanyari, groupe de musique Duning Uningan et des groupes de danse de Dolok Sipiak. le spectacle de musique auront lieu également au musée de TBC Lalahi et l'école internationale DEL. En plus d'une série de performances musicales dans le projet de Vinculos d'Indonésie, un groupe musical se composant de 38 personnes organise également des ateliers pour les enfants des écoles et distribuera des instruments de musique aux enfants ayant des besoins spéciaux. Une fois dans le lac de Toba, un groupe de musique Okas fera une visite à Jakarta et au Mil'il. Le projet de Vinculos est une coopération du groupe de musique Okas avec le directeur général de la culture et du ministère de l'éducation et soutenu par le ministère de la culture et du tourisme. Vous écoutez toujours le journal de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla a reçu la visite de courtoisie du président du Conseil de la politique du Parti libéral-démocrate, Toshimitsu Motegi, récemment au bureau du vice-président à Jakarta. Lors de sa visite, Motegi a déclaré le désir du Japon de contribuer au développement de l'Indonésie, notamment en termes de développement des infrastructures maritimes qualifiées. Il a également invité l'Indonésie à coopérer aux efforts de maintenir la sécurité et l'ordre dans la région suite aux tensions dans la région ces derniers temps. Yusuf Kalla a dit qu'il a accepté et procédera notamment des bonnes relations avec le domaine maritime. L'Indonésie veut relier les îles à la fois et il y a beaucoup de coopération avec le Japon, comme le train en Java et le port Patimban, Sumedang, Java West. Yusuf Kalla a déclaré que l'Indonésie était également très préoccupée par la sécurité et la situation politique dans la région et espère que les tensions dans la mer de Chine méridionale et en Asie orientale peuvent être résolues par le dialogue et le règlement politique. Il a ajouté que l'Indonésie publiera bientôt une nouvelle carte de l'Indonésie mentionnant que la zone maritime autour de l'île de Natuna en mer de Natuna Nord, dont on peut affirmer que le territoire appartenait à l'Indonésie, bien qu'elle soit encore une contradiction pour la Chine. L'Indonésie est invitée par le chef suprême de la délégation de l'Organisation pour l'interdiction des armements chimiques au OIAC, Ahmed Uzumku, le 27 juillet à Jakarta. La visite est spéciale pour l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, parce que le centre de recherche chimique est certainement conforme à OIAC. LIPI a le rôle pour soutenir l'activité de l'autorité nationale de la Convention des armes chimiques d'Indonésie par le développement des capacités de la laboratoire national reliant de l'analyse des produits chimiques dangereux. De plus, LIPI est également actif dans la diffusion de l'importance de la sécurité chimique en Indonésie. Une façon est d'organiser des discussions sur la sécurité chimique, webinaire pour l'Indonésie, à Jakarta, 27 juillet 2017. Le chef du Centre de recherche chimique de LIPI, M. Agus Haryono, a déclaré, grâce à ses activités, LIPI s'efforce de rappeler l'importance de la sécurité et l'utilisation sûre des produits chimiques en Indonésie. Selon Agus, LIPI, par son laboratoire, soutiendra toutes les activités dans la prévention de l'utilisation abusive des produits chimiques dangereux par l'intermédiaire de l'autorité national de la Convention des armes chimiques. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Sumar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. On commence avec l'éditorial du journal Sindo, le 27 juillet, ayant pour titre « Banque mondiale donne le compliment ». L'Indonésie a gagné l'appréciation de la Banque mondiale. Selon le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, après avoir rencontré le président Joko Widodo mercredi 26 juillet, la croissance économique moyenne réalisée au niveau de 5% pourrait faire envie d'autres pays. La Banque mondiale a affirmé d'avoir contribué à réaliser l'investissement dans ce pays pour le développement des infrastructures et le développement des ressources humaines. Selon Jim Yong Kim, l'Indonésie est l'un des meilleurs endroits au monde pour investir. La ministre de la Finance, Sri Mulyani, a révélé que l'Indonésie est classée première pour la version de la confiance du public au gouvernement, version des données de Gallup et publiée par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, dans la publication ayant pour titre « Gouvernement à un coup d'œil 2017 ». L'an dernier, le niveau de confiance du public vers le gouvernement a augmenté 28% à environ 80% en 2017. Ce chiffre a dépassé les pays développés membres de l'OCDE. Le Conseil de coordination des investissements BKPM a affirmé que l'investissement au cours de la première moitié de 2017 a atteint 336,7 trillions roupies, composé des investissements étrangers, 206,9 trillions roupies, et l'investissement intérieur, 129,8 trillions roupies. Par rapport à la même période de l'année précédente, qui était de 298,1 trillions roupies, la réalisation de l'investissement au cours des 6 mois a augmenté d'environ 12,9%. La réalisation de l'investissement au premier trimestre était 165,8 trillions roupies et le deuxième trimestre 170,9 trillions roupies. En regardant la réalisation de l'investissement semestriel, BKPM est plus confiant pour parvenir à la réalisation de l'investissement étant fixé à 678,8 trillions roupies cette année. Toutes les parties souhaitent que l'appréciation de la Banque mondiale soit une force motrice pour améliorer la réalisation des investissements en avenir de sorte qu'il y ait plus de travailleurs absorbés. Le dernier, l'éditorial du journal Tempo, le 28 juillet, est en titre « Scélérat qui a tort ». Parmi les nombreuses demandes de succès du gouvernement à sauver la fluctuation des prix des produits de base, le sel est réalisable compte tenu des chiffres rouges. Ces derniers jours, il y a une pénurie du sel de consommation dans certaines régions en Indonésie. Les mauvaises récoltes de 2016 et 2017 deviennent le bouc émissaire à blâmer par le gouvernement. La rareté de sel dans une terre de soleil, la mer et le littoral plus que la plupart des pays du monde est certainement très surprenant. Donc, il doit y avoir quelque chose de mal avec la politique de gestion de sel. Cette crise devrait être prévue à l'avance. Les signes d'un sel d'urgence sont déjà vus depuis longtemps. Depuis l'aide, le prix de sel a grimpé 4 fois. Par conséquent, selon Tempo, la mesure gouvernementale d'accélérer les importations de sel est appropriée. La réponse rapide est importante. Alors que la crise ne continue pas à se reproduire, l'effort du ministre de la Mer et de la Pêcherie d'élaborer une réglementation de contrôle des importations de produits de sel devrait être encouragé à être plus rapidement terminé. Cette règle devrait promouvoir une politique anticipative qui peut assurer la sécurité de l'approvisionnement sans préjudice de la protection des producteurs de sel. Cher ami, c'était la revue de presse.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Suara Syarjami, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 29 juillet 1907, premier camp scout sur l'île de Brossy, en Angleterre. Le mouvement scout a été commencé le 29 juillet 1907, au moment où Robert Baden-Powell, lieutenant général des forces armées britanniques, et William Alexander Smith, fondateur de la brigade du Garçon, ont tenu le premier camp scout sur l'île de Brownsea, en Angleterre. L'idée d'organiser ce mouvement apparaît lorsque Baden-Powell et ses troupes se sont battus pour défendre la ville de Mafeking, l'Afrique du Sud, et l'attaque de l'armée des Boers. À cette époque-là, le nombre de son troupe est moins que le nombre de soldats de Boers. Pour faire face à cette condition, un groupe de jeunes est formé et entraîné pour être des soldats bénévoles qui est chargé d'aider les militaires à défendre la ville. Il obtenait des tâches légères mais importantes, comme par exemple livrer le message de Baden-Powell à tous les membres de l'armée dans la ville. Il pouvait bien terminer le travail, de sorte que les troupes de Baden-Powell pouvaient défendre la ville de Mafeking pendant plusieurs mois. Après la guerre des Boers, Baden-Powell a fondé le mouvement Scout qui vise à inculquer des valeurs nobles chez les jeunes et les adolescents. Le 29 juillet 1957, la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'ONU. L'énergie atomique est une force qui a le potentiel de doubler, à savoir en plus d'avoir le potentiel d'une destruction de masse, est également une source d'énergie qui peut être utilisée pour la prospérité humaine. Se rendre compte du potentiel de doubler de l'énergie atomique, l'ONU a créé une organisation indépendante le 29 juillet 1957. La création de l'Agence internationale de l'énergie atomique vise à superviser et développer l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, ainsi que lutter contre son utilisation à des fins militaires. Le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique est situé à Vienne, en Autriche, et se compose de 137 pays. Le 29 juillet est la journée de dévotion de l'armée nationale indonésienne des forces aériennes. La commémoration de la journée de dévotion de l'armée nationale indonésienne des forces aériennes a été déclenchée par deux événements qui ont lieu un jour. Et au matin, trois pilotes cadets de forces aériennes ont réussi de bombarder le groupe de défense néerlandais à Semarang, à Salatiga et Ambarawa. Le but de cette opération aérienne est seulement de donner un effet psychologique aux armées néerlandaises et pour démontrer au monde que l'Indonésie existe toujours. À l'après-midi, un avion Dakota VT-CLA qui transportait des médicaments de la Croix-Rouge Malaisie à la Croix-Rouge indonésienne a été abattu par deux avions chasseurs dans le village de Ngoto Bantul, au sud de Yogyakarta. À cet événement, trois prisonniers de forces aériennes ont tué. Pour apprécier et honorer les héros de la force aérienne indonésienne, depuis 1955, la force aérienne a déterminé le 29 juillet comme la journée de deuil de la force aérienne de la République d'Indonésie. À partir du 29 juillet 1962, ça a été transformé en jour de dévotion de l'armée nationale indonésienne des forces aériennes qui est commémoré centralisé par l'armée nationale indonésienne des forces aériennes à l'aéroport Adi Sucipto. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre. Banque mondiale prévoit que l'Indonésie va immédiatement devenir pays à revenus moyens. Le président Joko Widodo a reçu la visite du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, ensemble avec sa délégation au Palais Merdeka à Jakarta le mercredi 26 juillet. À cette occasion, le président Joko Widodo était accompagné du ministre de l'Économie, Darmin Nasution, ministre coordinateur pour Maritime Luhut Panjaitan et la ministre de la Finance, Sri Mulyani. Lors de son discours, le président Joko Widodo a exprimé sa gratitude pour le partenariat solide de la Banque mondiale avec le gouvernement indonésien au fil des ans. Selon lui, la Banque mondiale a contribué à améliorer la structure et la qualité ou des dépenses fiscales indonésiennes. La Banque mondiale a fait un travail important avec l'Indonésie dans l'éradication de la pauvreté, les investissements en capital humain, tels que l'amélioration de la santé et de l'éducation et la lutte contre le changement climatique. Cependant, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, lors d'une conférence de presse après la réunion, a félicité l'Indonésie qui a fait l'éloge d'un taux de croissance de plus de 5%, ce qui, selon lui, l'envie de la majorité des pays du monde. Jim Yong Kim a indiqué que l'Indonésie est un bon exemple pour les pays en développement. Selon lui, l'Indonésie est prévue pour prouver qu'un pays peut se déplacer des pays à faible revenu aux pays à revenu intermédiaire dans un court laps de temps. Même, Jim croit aussi que l'Indonésie peut avancer vers les pays à revenu intermédiaire rapidement si elle continue de se concentrer sur la réforme de la réglementation. Il y a une direction très forte du haut, il y a l'industrie infantile dans de nombreuses régions qui sont maintenant prêtes pour des investissements plus grands, en particulier pour les investisseurs hors de l'Indonésie. Selon Yong Kim, le potentiel de croissance en Indonésie est très élevé. Kim a déclaré que la Banque mondiale tiendra une réunion concrète lors de la réunion annuelle en octobre 2018 avec l'Indonésie comme hôte. Cette visite fait partie d'une série de voyages en Indonésie et la préparation de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale l'année prochaine. Selon Kim, il sera de retour en Indonésie en février 2018 pour préparer une réunion des investisseurs qui seraient invités à la réunion annuelle. Selon le plan, la Banque mondiale invitera les investisseurs institutionnels de diverses régions du monde à venir en Indonésie pour voir les possibilités et le processus de réforme en Indonésie. Au cours de sa visite, Kim était accompagné par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Asie Est et du Pacifique, Victoria Kwakwa, le représentant de la Banque mondiale pour l'Indonésie et le Timor-Leste, Rodrigo Caves, le directeur régional de la Société financière internationale SFI, Vivek Pathak, le directeur du pays de SFI, Azam Khan, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Indonésie, Roland Pry, et l'adjoint spécial conseiller du président de la Banque mondiale, Aurélie Chardon. Chers amis, c'était la mise au point.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les tamusants et stimulants, les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Thank you.
santé, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, aujourd'hui, nous allons vous emmener en voyage culinaire à la ville de Makassar, Sulawesi du Sud. Donc, restez toujours avec nous à la voix de l'Indonésie et vous pouvez écouter les émissions via les zones courtes ou bien par www.voi.co.id. Makassar, la capitale du sud de Sulawesi, est célébrée pour ses sites touristiques de plage, comme la plage de Losari et aussi une variété des aliments. En général, les aliments de Makassar à base de poissons parce que cette ville est située près de la mer, comme par exemple Palumara ou Palcela. Dans cette ville, presque tous les aliments utilisent le citron. Par conséquent, dans les restaurants à Makassar, le citron doit être disponible. En plus de servir le citron, il y a toujours le sambal. C'est une pâte de piment écrasé au restaurant dans la ville de Makassar. La société de Makassar est connue comme les amateurs de nourriture épicée, comme par exemple Nasu Paleko. Cet aliment typique des régions de Sidrap. En langue bugis, la tribu indigène, Nasu signifie la cuisine et Paleko signifie casserole. La matière première de ce plat est la viande de canard. On utilise un jeune canard de sorte que la viande soit tendre et ne nécessite pas beaucoup de temps pour les traiter. Mais si les canards sont difficiles à trouver, parfois la communauté locale utilise le poulet. En plus d'utiliser la viande de canard, Nasu Paleko utilise aussi de divers assaisonnements tels que les piments, l'oignon, l'ail, le gingembre, la citronnelle, le sel, les épices et le vinaigre. D'habitude, on utilise le vinaigre fabriqué à partir de mangue jeune. Le vinaigre et l'ail de citron est généralement utilisé aussi pour éliminer l'odeur de poisson dans la viande. Et ensuite, les épices finement broyées et puis cuites. Après, les épices parfumées mélangées avec des morceaux de viande de canard et ensuite remouillées jusqu'à ce que cuit et prêt à servir. Le Nasu Paleko est épicé. Habituellement, il est servi dans un bol pour une personne et servi avec le buras, une sorte de lontong avec une forme rectangulaire. Le prix de Nasu Paleko environ 10 000 jusqu'à 15 000 rupiah par portion. Cet aliment peut acheter dans la région de Sidrap, au restaurant dans la ville de Makassar, la région de Pangkajene et Wajo. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, nous vous informons sur l'effort de la communauté du village Kranggan Harjo en région Grobogan, Java centrale, de préserver la culture d'Indonésie, notamment batik. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Thank you. batik comme langue des patrimoines culturels de l'Indonésie doit être préservé par tous les Indonésiens. En outre, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a officiellement approuvé la reconnaissance pour batik indonésien en tant que patrimoine culturel mondial le 2 octobre 2009. La date a été désignée plus tard comme la Journée nationale de batik par le décret présidentiel numéro 33 l'année 2009 sur la Journée nationale de batik. Le prix est donné parce que le gouvernement et le peuple indonésien a engagé de diverses mesures concrètes pour protéger et préserver le patrimoine culturel pour les générations. L'objet du patrimoine culturel indonésien est la preuve du développement culturel du peuple de l'Indonésie. Par conséquent, afin de le préserver, le public doit savoir batik afin de créer un sentiment d'appartenance et le respect du patrimoine culturel. La préservation du patrimoine culturel immatériel peut se faire sous la forme de la protection, le développement et l'utilisation, comme un engagement à prendre soin de la préservation de batik. La communauté de la région Grobogan, en particulier les maires du village Kranggan Harjo, apprennent de faire batik. Les maires au village Kranggan Harjo Grobogan Java Central, ayant l'âge moyen, utilisent leur temps libre pour apprendre de faire batik au motif spécifique de Grobogan. Dans ce processus d'apprentissage, les maires envisagent la difficulté de faire mencanting ou couvre le tissu avec une couche de malam, soit cire. L'objectif est qu'au moment de la teinture, le tissu recouvert par la couche de malam n'est pas affecté par la couleur de la cire. Cependant, avec la persévérance, enfin la difficulté peut être surmontée. Avant de faire mencanting, ces mères doivent d'abord créer le motif de batik désiré. Après mencanting, on continue en donnant la couleur. Pour le motif, les mères sont plus intéressées à faire le motif de maïs, le scorpion et les feuilles de maïs. En plus des compétences à roder, cet exercice vise également à préserver la culture typique Grobogan qui est de plus en plus étante. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosmar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar. We'll be right back.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Et cette fois, nous allons vous présenter un groupe de musique de Trees and the Wild. Bon, pour la première chanson, on va écouter une chanson intitulée Honeymoon on Ice, chantée par groupe de musique The Trees and the Wild. Thank you. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voilà une chanson intitulée Honeymoon on Ice, chantée par groupe de musique The Trees and the Wild. Cette groupe, qui vient de Bekasi, a été formée en 2006 par trois amis. Ils sont Remedy, Iga Masardi et Andra Budi Kurniawan. Tous les trois qui ont été amis depuis leur collège ont essayé de faire une simple composition musicale acoustique, mais toujours intéressante. Donc, leur première chanson est intitulée Honeymoon on Ice. Le succès de la première chanson a également attiré l'attention d'un label indépendant. Grâce à ce label indépendant, ils ont finalement sorti leur premier album intitulé Rasuk en 2009. Après la sortie de leur album, ils ont tenu régulièrement des concerts à divers endroits, soit en Indonésie et à l'étranger, comme la Malaisie, Singapour, Hong Kong et l'Allemagne, y compris la Finlande et l'Estonie. En 2011, ce groupe a été recommandé par le magazine Time comme une groupe band d'asiatique à écouter. Bon, chers amis, voici une chanson intitulée Serangan, chantée par The Trees and the Wild. Vous écoutez toujours le programme musical de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Cher ami, 7 ans après la sortie de son premier album en 2009, groupe de musique The Trees and the Wild a publié un autre album intitulé Zaman, Zaman. La matière présentée dans cet album est un peu différente que son premier album. Les chansons ont été créées à partir des différents instruments de musique. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, on va présenter la dernière chanson intitulée Empathy Tamako. Bonne écoute et à bientôt.
kesedihanmu akan pergi, terhempas angin-angin selatan yang penuh debu, terbawa sampai ufuk-ufuk timur. Terjauh ufuk timur. Bertanya dalam hati, kapan ini kan berakhir dan terbawa sampai ufuk timur. Terjauh ufuk timur. Terjauh.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.